VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bienvenue à l'édition de ce lundi 23 février. Bonsoir à tous. À la une ce soir.
Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo à la barre. L'ancienne première dame s'est enflammée ce lundi contre la France et le gouvernement du président Alassane Ouattara.
Dossier Ebola, plus de couvre-feu au Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie.
Le nouveau patron du Pentagone, Ashton Carter, durcit le ton contre l'État islamique auquel il promet une défaite irréversible.
L'Ukraine encore en proie à des combats entre séparatistes et armées gouvernementales, plus d'une semaine après la signature d'un accord de cessez-le-feu.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
En Côte d'Ivoire, au procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, elle s'est livrée à une diatribe enflammée contre la France et l'actuel régime ivoirien. C'était sa première apparition publique en 4 ans. On fait le point avec Idriss Fall.
Simone Gbagbo ne s'était pas exprimée publiquement depuis son arrestation le 11 avril 2011. Souriante à son arrivée au tribunal, elle a relancé la polémique en disant que Laurent Gbagbo est le vainqueur de la présidentielle de 2010. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche, affirme-t-elle calmement. Ensuite, elle a dénoncé l'ingérence de la France dont l'armée a, selon elle, bombardé la résidence présidentielle pendant une dizaine de jours sans aucune résolution de l'ONU lui donnant ce pouvoir. Elle a ajouté que les rebelles de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, et Alassane Ouattara ont massacré des populations civiles et humilié des représentants de l'État. Madame Gbagbo est la dernière à être entendue parmi 83 accusés dans un procès fleuve pour atteinte à la sûreté de l'État. La société civile ivoirienne dénonce une justice des vainqueurs car jusque-là, aucun partisan de M. Ouattara n'a été inquiété alors que les deux camps sont accusés d'avoir commis des exactions pendant la crise post-électorale qui aura fait plus de 3000 morts.
Alors que le Libéria a fêté la fin du couvre-feu ce week-end, un responsable du ministère de la Santé a déclaré que le pays continuerait à respecter tous les protocoles et règlements de prévention contre Ebola jusqu'à ce qu'il atteigne zéro infection. Claire Morin-Gibourg.
La présidente Ellen Johnson Sirleaf a ordonné dimanche la levée du couvre-feu mis en place en août dernier pour prévenir la propagation du virus Ebola. Les frontières avec les pays voisins ouest-africains ont également été ouvertes. Tolbert Nienswa, le ministre adjoint de la Santé, a tenu à rassurer. La baisse récente du nombre de cas d'Ebola a beaucoup amélioré la situation. Les enfants doivent retourner à l'école et l'économie du pays doit redémarrer. Le ministre a ajouté que les nouveaux cas d'Ebola étaient beaucoup mieux pris en charge désormais grâce aux partenaires internationaux dont le gouvernement américain. Nous sommes optimistes, a déclaré le ministre. Nous arrivons à zéro cas bientôt. La présidente Sirleaf a également ordonné l'ouverture des frontières du Libéria, de même que les pays voisins comme la Sierra Leone qui continuent de signaler des nouvelles infections. Mais le Libéria a fortement accru la surveillance de ses frontières.
Départ annoncé de l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Russ Feingold annoncera officiellement sa démission ce mardi après plus d'un an et demi en fonction. L'ancien sénateur américain veut refaire de la politique aux États-Unis. Nicolas Pineau.
Oui, le département d'État a confirmé l'information dès samedi. L'ancien sénateur du Wisconsin va donc se représenter lors des élections de 2016 pour regagner son siège dans son État. Russ Feingold est en effet quelqu'un qui compte chez les démocrates. Depuis juin 2013, il a sillonné la région des Grands Lacs et contribué à la signature des déclarations de Nairobi entre le gouvernement congolais et le M23. En revanche, le désarmement des FDLR n'a toujours pas commencé. De Kinshasa à Kigali, en passant par Bujumbura, M. Feingold ne s'est pas fait que des amis dans la région. Ferme défenseur du respect de la Constitution, comme le veut Washington, Russ Feingold a eu des échanges très durs avec le gouvernement congolais, qu'il a plusieurs fois accusé d'ingérence. Le successeur de M. Feingold devra s'occuper des élections présidentielles cruciales au Burundi cette année et en RDC l'année prochaine. Les opposants congolais regrettent déjà ce poil à gratter de la diplomatie américaine.
Toujours concernant la RDC, le procès de l'opposant Vital Kamerhe est renvoyé. La Cour suprême n'a pas précisé la date de la prochaine audience, indique l'AFP. Poursuivi pour diffamation, l'ancien président de l'Assemblée nationale a accusé une députée de fraude électorale. La réaction de M. Kamerhe.
Nous félicitons la Cour d'avoir respecté la procédure. Mais ceci dit, l'affaire n'est pas clôturée. Il faut que la Cour aille jusqu'au bout. Nous n'avons rien à nous reprocher. Notre code ne prévoit pas d'infraction quand on dénonce la fraude électorale. Beaucoup l'ont fait, le cardinal l'a fait, Étienne Tshisekedi l'a fait, la communauté internationale l'a fait, on ne les a jamais inquiétés. Donc nous voulons que cette Cour saisisse une fois pour toutes son indépendance.
Vital Caméré.
Au Soudan, la campagne pour les scrutins présidentiels et législatifs débute mardi. Le président Omar el-Béchir est presque assuré d'être réélu. Les 14 autres candidats sont presque inconnus du public.
Les négociations de paix au Soudan du Sud ont repris lundi à Addis Abeba. C'est une nouvelle session dite de la dernière chance après des échecs successifs pour mettre fin à 14 mois de conflits meurtriers. Les deux parties ont jusqu'au 5 mars pour trouver un accord de partage du pouvoir.
En Égypte, un tribunal a condamné à 5 ans de prison Alaa Abdel Fattah, une figure de la révolte anti-Moubarak en 2011. Les 24 co-accusés du jeune militant de gauche ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau chef du Pentagone a réuni aujourd'hui au Koweït une vingtaine de généraux, ambassadeurs et responsables de renseignement pour discuter de la stratégie contre la menace de l'État islamique. Ashton Carter avait donné le ton hier lors d'une rencontre avec les troupes américaines. Il a promis à Daesh une défaite irréversible. Salwa Jafari nous en dit plus.
Une réunion au plus haut niveau en guise de baptême de feu pour le nouveau locataire du Pentagone. Ashton Carter se réunit aujourd'hui avec une trentaine de hauts gradés, de diplomates du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe. Un sommet aux allures de conseil de guerre. Il faut dire que la menace est de taille. L'État islamique continue de sévir dans la région. Le secrétaire d'État n'a pas nécessairement l'intention de changer la stratégie des alliés contre Daesh. Loin de là, son cabinet avait déclaré qu'il souhaiterait plutôt se familiariser avec le plan de la campagne internationale, mais qu'il n'allait cependant pas hésiter à faire pression sur les participants pour justifier leur approche et leur décision. L'État islamique ne sera pas la seule question au menu de ces discussions. On parlera aussi de la division sectaire en Irak, de la prolifération de cellules affiliées à Daesh en Afrique du Nord et en Afghanistan, ou encore de l'entraînement des rebelles syriens. Un agenda donc chargé pour le nouveau secrétaire d'État qui a d'ores et déjà promis une victoire pour les alliés.
Quelques 800 soldats irakiens sont à l'offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville d'Al-Baghdadi, voisine d'une base aérienne où sont stationnés des militaires américains, dit l'AFP, citant un général américain. Je suis presque sûr que les Irakiens vont reprendre Al-Baghdadi, a déclaré le général James Terry, commandant de la coalition internationale anti-État islamique. Dans le nord de l'Irak, les milices kurdes irakiennes sont parvenus à mettre en échec une tentative des djihadistes de s'emparer de la ville de Kiskeh, stratégiquement située sur la route menant à Mossoul, au nord-est de la Syrie, où l'État islamique contrôle aussi des territoires. Au moins 127 djihadistes seraient morts dans les combats, selon le général.
En Ukraine, l'armée accuse les séparatistes pro-russes de continuer à lancer des attaques, ce qui empêcherait le retrait des armements lourds, tels que prévu dans l'accord de cessez-le-feu. Kiev affirme ne pas pouvoir opérer ce retrait tant que ces attaques n'auront pas cessé. Selon des responsables militaires, les rebelles ont accepté de terminer le retrait de leurs armements lourds d'ici à 2 semaines. Le cessez-le-feu conclu à Minsk entre les présidents ukrainiens, russes, français et la chancelière allemande a été violé à maintes reprises depuis son entrée en vigueur il y a un peu plus d'une semaine.
Suivi de l'accord prolongeant sur le plan de sauvetage économique en faveur de la Grèce, les autorités d'Athènes ont travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour finaliser les propositions de réforme qu'elles doivent soumettre à leurs créanciers européens. L'extension de 4 mois dépend de ces propositions que les ministres des Finances de la zone euro examinent demain, mardi. Le plan de sauvetage de 270 milliards de dollars arrive à expiration cette semaine.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif font une deuxième journée d'entretien ce lundi, alors que se rapproche la date butoir du 31 mars pour un accord politique sur le nucléaire iranien. Des écarts restent à combler, disent certains responsables proches des pourparlers. Les puissances mondiales et l'Iran essaient de trouver une entente sur la quantité d'uranium que l'Iran pourra enrichir, le nombre de 100 centrifugeuses qui lui sera permis d'opérer et la levée des sanctions imposées à la République islamique.
Le service de sécurité intérieure israélien a annoncé lundi avoir arrêté 11 membres du mouvement islamiste palestinien Hamas en Cisjordanie, occupés, en affirmant qu'ils y projetaient des attentats. L'AFP signale que ces arrestations ont eu lieu en janvier, selon un communiqué du Sinn Bet.
La Corée du Nord a peur d'Ebola. Par souci d'empêcher la propagation du virus, les autorités nord-coréennes ont interdit la participation des étrangers au marathon annuel de Pyongyang en avril prochain. A signalé que la Corée du Nord n'a encore enregistré aucun cas d'Ebola. Le pays a fermé ses frontières en octobre dernier et imposé une stricte quarantaine aux étrangers, notamment les diplomates et les travailleurs humanitaires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Bagessikoura.
Gigawatt Global vient de terminer la construction du premier champ solaire de l'Afrique de l'Est. C'est un projet de 23,7 millions au Rwanda. Il s'agit d'un champ solaire de 8,5 mégawatts au village des jeunes Agahonzo Shalom, une organisation caritative dans le sud-est du pays. C'est l'un des 10 projets privés soutenus par le Power Initiative du président Obama. En République démocratique du Congo, au Katanga, c'est une information de Radio Okapi, les habitants du quartier Kakontwe accusent l'entreprise minière chinoise Keipen Mining de polluer la rivière Moura et la source Kiantete dans la ville de Likasi dans le Katanga pour manifester leur colère. Ils sont descendus ce lundi dans la rue. Un des manifestants indiquait qu'ils consomment depuis bientôt 4 mois l'eau infectée suite à la pollution des eaux. Et puis la Zambie interviendra pour préserver près de 4000 emplois à la mine de cuivre de Lumwana dans le nord-ouest du pays, que le groupe canadien Barrick Gold veut mettre à l'arrêt en représailles à une hausse d'impôts. Le gouvernement a relevé au 1er janvier de 6 à 20% le montant des taxes sur les mines. Depuis lors, le groupe basé à Toronto a annoncé qu'il voulait suspendre l'activité et qu'il commencera à renvoyer les mineurs chez eux dès le 1er mars. Et puis enfin, le groupe public français Areva, un des géants mondiaux de l'industrie nucléaire, a dévoilé ce lundi une perte nette record provisoire de 4,9 milliards d'euros sur l'année 2014, qui laisse présager une délicate restructuration.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Bagessikoura. Au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La Coupe de la Confédération, ça passe pour Oroya AC.
Oui, le club guinéen s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération après son nul 3 partout face à l'équipe libérienne de Fassal FC. C'était en match retour préliminaire, c'était dimanche à Bamako. À l'aller, Oroya l'avait emporté 1-0. Les deux matchs ont été délocalisés à Bamako en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée et au Libéria. Au prochain tour, Oroya affrontera les Algériens d'Assochlef.
À Lubumbashi, Sylvain Gbowo est arrivé.
Transféré du CW Sport San Pedro, comme ses coéquipiers Christian Kwame et Roger Assalé, le gardien de but ivoirien Sylvain Gbowo est donc arrivé vendredi au tout-puissant Mazembe.
Cyclisme Tropical Amissa Bongo.
Pour la deuxième année consécutive, un Africain a enlevé dimanche l'épreuve. La Tropical Amissa Bongo, au nez et à la barbe des coureurs venus d'Europe. Mieux, 3 Africains du jamais vu figurent parmi les 4 premiers du classement général de cette course gabonaise. Le Tunisien Rafah Tiwi remporte l'épreuve. L'Algérien Abdelkader Belmokhtar est 3e et le Namibien Dan Craven est 4e. Au-delà de ce classement général, les coureurs africains ont encore brillé dans les classements annexes. On retrouve le Rwandais Bonaventure Uwize Imana en tête du classement du meilleur jeune. Le Marocain Essaïd Abelouache, numéro 1 sur les points chauds. Et son compatriote Mohamed El Rafai, lauréat du prix de la combativité.
L'NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a concédé sa 10e défaite de la saison face à Indiana, 98-104. Oklahoma City a signé une 6e victoire consécutive contre Denver, 119-94. Les autres résultats de dimanche, nouvelle défaite des Knicks de New York contre Cleveland, 83-101. Victoire de Détroit face à Washington, 106-89. La défaite de Milwaukee contre Atlanta, 86-97. Orlando s'impose devant Philadelphie, 103-98. Précieuse victoire de Dallas contre Charlotte, 92-81. Memphis qui l'emporte à Portland, 98-92. Et dans les prolongations, les Lakers qui dominent Boston, 118-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Plusieurs creuseurs artisanaux dans l'est de la RDC n'ont aucune culture d'épargne pendant qu'ils gagnent beaucoup d'argent dans les carrés miniers. Leurs recettes journalières sont dépensées dans des futilités et la majorité d'entre eux n'ont pas d'avenir. Quelques organisations de la société civile et les acteurs œuvrant dans le domaine minier se sont réunis à Goma pour réfléchir sur cette situation. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudahigua.
L'est de la RDC regorge plusieurs carrés miniers dans lesquels on exploite du diamant, de l'or, de la cassitérite, de la tourmaline et plusieurs autres minéraux. Les creuseurs artisanaux gagnent en moyenne 10 dollars par jour, explique celui-ci rencontré dans le carré minier de Mangurejipa, dans le territoire de Lubero au Nord Kivu.
Même je peux gagner même 5 dollars, même 10 dollars, même 15 dollars.
Selon les recherches menées par Paul Institute, Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, les creuseurs artisanaux contribuent à l'enrichissement de beaucoup de gens, mais eux-mêmes demeurent pauvres et n'ont pas de l'avenir. Aloïse Teguera est directeur de la recherche à Paul Institute.
On a conduit des recherches approfondies en province orientale, au nord Kivu et au sud Kivu, pour essayer un peu de confirmer une idée que nous avons. Comment aider les creuseurs artisanaux à bénéficier de leur travail comme il faut. Et quelque chose qui leur manquait, que nous avions décelé depuis un temps, c'était l'absence des possibilités d'épargne pour ces gens qui vivent le jour au jour.
Cette problématique était au centre d'une table de concertation minière organisée à Goma pour réfléchir sur les voies et moyens qui peuvent inciter les creuseurs à épargner. Les creuseurs artisanaux reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas la possibilité d'épargner par manque de succursales de microfinance dans les carrés miniers, explique ce négociant des minéraux de Kalimbi au sud Kivu.
Il n'y a pas moyen d'épargner sans quelque part, sans un guichet, sans une place d'épargne comme IMF ou bien coopérative de microfinance. Ça n'existe pas chez nous, raison pour laquelle les exploitants n'épargnent jamais.
L'initiative de coopératives minières pourrait aider les creuseurs à se développer. Depuis Goma, Primo Pascal Roudahigua pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Le 2 mars prochain, la société VAC Togo lance le mois de la femme qui couronne chaque année une personnalité féminine. La lauréate du mois de la femme est dénommée ambassadrice Vlisco. En 2014, c'est Aimée Abra-Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été couronnée ambassadrice Vlisco. En fin de mandat, elle vient de remettre ses actions sociales. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Trois domaines principaux ont été choisis par l'ambassadrice Vlisco 2014 pour contribuer au développement du Togo. Il s'agit de l'éducation, de la promotion des droits de la femme et de la protection de l'environnement. Pour appuyer le volet environnemental, l'unité de production des sacs et accessoires à partir des sachets plastiques recyclés a reçu une machine à coudre de maroquinerie. Aimée Abra-Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et ambassadrice Vlisco 2014.
Dans le domaine de la protection de l'environnement, nous avions reçu un don d'une machine de maroquinerie professionnelle pour améliorer la production de nos sacs et accessoires Zamke. Nous venons de monter un second atelier à Palimé où nous recyclons également environ 50 000 sachets là-bas. Il y a le volet environnement, mais il y a aussi l'accompagnement financier des femmes qui collectent ces sachets dans les rues. Ils sont rémunérés à hauteur de 4 francs le sachet.
Sur le plan éducatif, 400 kits scolaires ont été remis aux enfants démunis des milieux ruraux et 4 bourses d'études d'une valeur de 500 000 francs CFA chacune pour des étudiantes des universités publiques du Togo. Le programme de bourse est assuré par le réseau NAASI. Luc Agbetoro, secrétaire général de ce réseau.
Notre programme vise à sortir l'étudiant togolais de cette difficulté quotidienne en lui octroyant une opportunité de poursuivre ses études à partir des financeurs que nous cherchons au Togo et dans la diaspora, afin de financer ces étudiantes qui sont non seulement excellentes, mais qui sont aussi dans le besoin.
La bourse Mois de la Femme se repose sur trois critères fondamentaux. Être une jeune fille dans une université publique, avoir au moins 12 de moyenne et une situation sociale délicate. L'une des bénéficiaires de cette bourse est Ayawa Amedeovo. Elle est étudiante en deuxième année gestion, option comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé.
Cette bourse va m'apporter beaucoup, surtout en matière financière, pour l'achat des matériels didactiques. La distance de ma maison jusqu'à l'université de Lomé, c'est un peu grand, donc j'ai besoin des moyens financiers. Donc, mon projet d'avenir, c'est d'être expert comptable. Donc, je veux promouvoir la transparence dans la gestion, devenir aussi une leader, une modèle pour la jeune fille togolaise.
La dernière action sociale de l'ambassadrice Aimé Abratenou est l'établissement de 100 cartes d'identité nationale pour des femmes du centre d'alphabétisation de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
L'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, défis et opportunités, tel est le thème de la 15e édition du Forum de Bamako. Pendant 72 heures, plus de 300 participants venus des quatre coins du monde ont planché sur diverses questions telles que la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et des biens, la géostratégie. Kassim Traoré nous en parle.
Le thème de cette 15e édition colle aux réalités africaines, car les chiffres ne parlent pas en faveur du continent noir. 31 millions d'enfants en marge du système éducatif, 163 millions d'adultes analphabètes, 386 millions d'Africains vivent encore avec moins de 600 francs CFA par jour. À tout cela, il faut ajouter le terrorisme qui menace le développement du continent. Gilles Iberson, ambassadeur de la France au Mali.
Ces fonds serviront non seulement au projet, je dirais, classique de développement, mais aussi serviront à appuyer ce qui semble essentiel, à appuyer le secteur privé. La croissance viendra du secteur privé.
Les Africains doivent se réveiller, se battre, se prendre en charge. Et tout le monde sait que le développement du continent africain ne pourra pas se faire sans les Africains. C'est du moins l'avis d'Elie Evagès Bella, participante.
Ceci pour que d'ici l'an 2035, l'Afrique soit dotée de pays paisibles, forts et capables de gérer pleinement les ressources humaines, matérielles et culturelles sans entrave et en dehors de toute ingérence extérieure.
Le patron de la délégation de l'Union européenne abonde dans le même sens, l'ambassadeur Richard Zink.
Mais ce n'est pas la coopération internationale qui va changer le pays. C'est seulement l'effort national. Il est donc essentiel de définir notre vision pour le Mali de 2035 afin que nous puissions au mieux prendre les décisions aujourd'hui qui influencent le Mali de demain.
En 15 éditions, le Forum de Bamako a trouvé une place incontournable dans l'agenda de l'intelligentsia africaine, européenne, américaine et asiatique. Abdoulah Koulibaly, vice-président du Forum de Bamako.
L'ambition est de faire du Forum un creuset d'idées novatrices et ambitieuse pour le développement de l'Afrique, pour que la croissance tant vantée de l'Afrique, qui demeure hélas virtuelle pour nombre d'Africains, devienne enfin une vraie croissance partagée.
Pour sa première participation au Forum de Bamako, le chef de l'État malien a mis l'accent sur l'insécurité grandissante, Ibrahim Boubacar Keïta.
Sans sécurité, pas de développement. Et c'est pour cela que, pour notre part, nous faisons tout et nous ferons tout pour que les pourparlers actuellement encore en Algérie débouchent sur une paix durable. Je suis convaincu que vos débats nous édifieront avec plus d'assurance, car ils seront basés sur une documentation solide.
Les recommandations de cette 15e édition du Forum de Bamako seront transmises au président de la République du Mali avant toute diffusion dans la presse. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
«
les stars d'Hollywood étaient à Los Angeles hier pour la 87e cérémonie des Oscars. La soirée est animée au théâtre Dolby par la star de la télévision Neil Patrick Harris. Birdman a été sacré meilleur film. Le réalisateur mexicain Alejandro Iñárritu a décroché également l'Oscar du meilleur réalisateur pour cette comédie fantastique après avoir reçu l'Oscar du meilleur scénario original. Alors nous avons sur place Roger Muntou. Roger.
Bonjour Morgane. Mais écoutez, évidemment, vous avez tout dit Morgane. Et cette 87e cérémonie annuelle des Oscars a commencé, je dois le dire, sous une journée pluvieuse ici à Los Angeles. Hein. On pouvait voir toutes les stars descendre de leur limousine avec des parapluies hein, avant de marcher sur le tapis rouge. Mais Neil Patrick, vous l'avez aussi dit, présentateur principal de cette cérémonie, avait bien démarré la soirée avec des rires et des applaudissements. Hein, une introduction musicale fantastique. Et ce que beaucoup de frères et de sœurs africains ici à Hollywood ont aussi beaucoup admiré, parce que l'actrice Lupita Nyong'o était la première à présenter l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à J.K. Simons du film Whiplash.
Mmh. Et quelques temps forts durant cette cérémonie ?
Mais évidemment, temps fort, Morgan. Birdman, sacré film, vous l'avez dit, repart avec 4 statuettes. Hein, la comédie noire écrite, réalisée et produite par le Mexicain Alejandro González Iñárritu a également été récompensé dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure photo. Et aussi, on doit parler de ce grand moment émouvant de cette soirée. C'est quand le rappeur Common et le chanteur John Legend, tous deux aussi, heureux d'avoir reçu un Oscar hein, hier soir pour la chanson Glory, une chanson qui honore aussi en quelque sorte le révérend Martin Luther King. Pendant qu'il chantait Morgan, on pouvait voir dans la salle des hommes et des femmes, blancs ou afro-américains, en larmes.
Mm-hmm. Et déception hein, aussi avec Tombouctou qui n'a pas été récompensé.
Évidemment, Tombouctou n'a pas été récompensé. C'était Ida qui, à la place, qui a été récompensée. Les frères et sœurs ici, la communauté africaine ici à Hollywood, en Californie aussi en général, m'ont texté ce matin. Ils s'attendaient, mais Morgan, c'était comme une Coupe du Monde. Hein. C'était comme le football américain, la finale, je veux dire. Mais ils attendaient tous, mais malheureusement, Tombouctou n'a pas remporté. Mais je veux encore redire que ce que Monsieur Sissako nous avait dit au téléphone, qui s'y gagne ou pas, pour lui c'était déjà fort d'être déjà nominé à cette place-là, Morgane.
Voilà, ben écoutez Roger Muntou, merci beaucoup et puis on vous attend de pied ferme à Washington DC.
Merci beaucoup Morgane, au revoir.
Au revoir.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo à la barre. L'ancienne première dame s'est enflammée ce lundi contre la France et le gouvernement du président Alassane Ouattara.
Dossier Ebola, plus de couvre-feu au Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie.
Le nouveau patron du Pentagone, Ashton Carter, durcit le ton contre l'État islamique auquel il promet une défaite irréversible.
L'Ukraine encore en proie à des combats entre séparatistes et armées gouvernementales. Plus d'une semaine après la signature d'un accord de cessez-le-feu à Minsk entre les belligérants, sous les auspices du président français François Hollande, du président russe Vladimir Poutine et bien sûr Petro Poroshenko et de la chancelière allemande Angela Merkel.
Et le service de sécurité intérieure israélien a annoncé hier avoir arrêté 11 membres du mouvement islamiste palestinien Hamas en Cisjordanie occupée.
Moins 1 degré centigrade ici à Washington. Mes amis, on préférerait peut-être être à Niamey au Niger où il fait 30 degrés ou à Kinshasa, 27 degrés centigrades.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph.
Accompagné de Wagner Robert.
À la présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA.